Quelle France dans 10, 20, 50 ans? Nous avons auditionné plus de 400 personnalités parmi les plus qualifiées du pays et dans tous les domaines. L'heure est à une mobilisation générale pour éviter le pire et construire le meilleur. Faire réussir la France, 30 réformes majeures et 250 actions urgentes sous la direction de Jacques Attali aux éditions Fayard.
Cette semaine, nous partons à la recherche de l'économie chez Marcel Proust, nouvelle série dans le cadre du podcast que France Culture consacre à l'auteur de la recherche pour le centenaire de sa mort. Quelle est la place de l'argent dans la vie de Proust, cet héritier un peu trop prodigue? Comment écrit-il La fin d'un monde et l'avènement d'une nouvelle élite? Pour le savoir, il nous faut d'abord revenir au 19e siècle, lorsque les romanciers se passionnent pour les transformations de la révolution industrielle. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. De Balzac à Zola, quand l'argent fait sa loi, c'est notre sujet aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Marie Baron, présidente de la Société des Amis d'Honoré de Balzac et autrice de très nombreux livres, dont Le Paris de Balzac et Honoré de Balzac à 20 ans, esclave de sa volonté aux éditions du Diable Vauvert. Également avec nous, Émilie Piton-Foucault, chercheuse associée au Centre d'études des littératures et langues anciennes et modernes de Rennes 2 et spécialiste de Zola, une émission imaginaire. Née par Thibaut Moméja, Mathilde Tonfourcade, Aliette Aubin et Théo Gian Greco.
C'est un curieux sujet pour une conférence, Balzac et l'argent. Comment l'avez-vous choisi?
Mais c'est très simple, chère madame. J'aime beaucoup Balzac et je ne déteste pas l'argent.
Non.
Non, mais je plaisante. En vérité, j'ai publié l'année dernière un livre intitulé précisément Balzac et l'argent.
J'espère qu'un jour vous nous donnerez Balzac et l'amour.
Pourquoi pas?
Anne-Marie Baron et Émilie Piton-Foucault, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va parler de l'argent dans l'œuvre de Balzac, plus largement dans le roman du 19e siècle, car les romans de Balzac ont été une grande source d'inspiration pour Marcel Proust, Anne-Marie Baron.
Oui, très très grande, même peut-être la principale. On peut d'ailleurs penser que le titre « À la recherche du temps perdu » condense deux titres de Balzac, « La recherche de l'absolu » et « Illusion perdue ». Et il y a quelque chose qui me touche énormément, c'est que c'est l'idée qu'a soulevé le grand proustien Luc Fraisse l'autre jour à la Société des Amis de Balzac. Il nous a dit que Proust, étant malade, étant se cherchant, etc., n'a jamais été sûr lui-même d'être un romancier. Et que il faisait du Balzac, c'est-à-dire qu'il pastichait Balzac, il citait Balzac et il intégrait des pastiches de Balzac dans son œuvre, en particulier en mettant tout le temps « voici pourquoi », comme fait Balzac, uniquement pour se convaincre lui-même qu'il était romancier. Et il n'a été convaincu, vous savez quand ? Seulement en 1908, quand il a eu le prix Goncourt pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Moi, je trouve cette idée extraordinairement émouvante.
Sachant qu'il est mort seulement une quinzaine d'années plus tard, puisqu'il est mort en 1922.
Non, mais donc, qu'un écrivain comme Proust, évidemment, il inventait une forme tellement novatrice qu'il se disait « mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble ?» Et c'est simplement en ayant le prix Goncourt qu'il a été convaincu que c'était du roman.
Alors on va voir quelle est la place de l'argent dans l'œuvre de Marcel Proust. Ce sera l'objet de notre émission demain. Mais d'abord, il faut parler de ce rôle de l'argent dans la littérature du 19e siècle, puisque si l'argent a toujours été un motif littéraire, Émilie Piton-Foucault, il va prendre justement dans la littérature une place inédite avec la révolution industrielle et l'avènement du capitalisme.
Oui, ça certainement, notamment que Zola lui-même y voyait une sorte de jouissance qui est arrivée dans la société et que l'argent en faisait partie énormément, l'économie qui influençait à la fois les habitants de n'importe quel niveau social et ce qui se passait pour le peuple à côté de cette montée. Et aussi l'idée de la spéculation qui se développait de plus en plus et l'obsession, en tout cas quelque chose qui l'a fasciné sur la bourse alors qu'il n'était pas du tout lui-même proche de la question de l'argent personnellement.
Et non seulement l'argent devient un objet littéraire capital au XIXe siècle, mais la condition de l'écrivain se transforme. L'écriture devient une activité rémunératrice et elle porte en elle une promesse d'ascension sociale au XIXe siècle, Anne-Marie Baron.
Oui, c'est très important parce que du jour au lendemain, les écrivains, enfin ceux qui ont la vocation d'être écrivains, sont obligés de devenir journalistes. Et ça, on le voit dans Illusion perdue, hein, le Lucien de Rubempré, il est obligé de devenir journaliste pour manger. Parce que, évidemment, aucun libraire ne veut acheter ses poèmes, ni même son roman historique. Donc, vendre son travail, c'est non seulement gagner sa vie, mais s'adapter au contexte du journal pour coexister avec d'autres genres et comprendre quelle est l'économie générale du journal, c'est le feuilleton par exemple.
On va en parler, mais alors c'est très nouveau ça, au XIXe siècle, Émilie Piton-Foucault, de pouvoir vivre de son écriture, de pouvoir même s'élever dans la société grâce au roman, puisque jusqu'ici, l'écriture était réservée à une élite, à la fois l'écriture et puis la littérature, la lecture.
Oui, sans doute le développement aussi de la presse qui a joué énormément. Zola est un cas particulier, hein, parce qu'il a eu la chance de pouvoir travailler pour Hachette, mais juste pour, même au départ, attacher des livres simplement, et qu'au fur et à mesure, il a réussi à faire des commentaires sur la presse, qu'il l'a intégré en fait dans cet univers-là, et c'est ce qui lui a permis évidemment par la suite de pouvoir commencer à faire des romans, ce qui n'était pas forcément sa première idée au tout début.
Alors Anne-Marie Baron, vous avez cité Les Illusions perdues, ce roman de Balzac a été adapté au cinéma par Xavier Giannoli, il est actuellement en salle, et dans l'extrait que vous allez entendre, le jeune Lucien de Rubempré rencontre le journaliste Étienne Lousteau.
Je voulais dire, je respecte énormément le métier de journaliste.
Oui ? Et tu crois que c'est quoi mon métier ?
Vous vous rendez compte des nouveaux livres, des nouvelles pièces de théâtre, des nouvelles idées ? Vous éclairez les gens sur l'art ? Le monde ?
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Et au passage, de ratisser le plus possible.
De ratisser ?
Ratisser. Absolument.
On se fait payer une première fois par un directeur de théâtre pour écrire une bonne critique. Ensuite, on va voir son concurrent dans le théâtre d'à côté pour lui proposer de dire du mal du premier. Et comme ça, on fait monter les enchères en écrivant du bien ou du mal dans des journaux différents, sous des noms différents. Et ça tourne, et ça tourne. Et on ratisse, on ratisse. Ça crie, ça pleure, ça débarque ici avec des insultes ou des cadeaux. Et la polémique est lancée. Et la polémique, pour eux, c'est le plus important. C'est ce qui fait parler, donc vendre. Des places de théâtre, des livres, tout ce que tu veux.
Vous trouvez beaucoup de rédacteurs qui acceptent ?
Le journal paye à la ligne, mon grand. À la ligne et le jour même, t'as compris ? Tu rends ton article le matin et t'es payé le soir même. Les éditeurs, eux, ils te payent à 6 mois, enfin et encore quand ils te payent.
Voilà, vous avez peut-être reconnu Vincent Lacoste qui joue le rôle du journaliste corrompu. La presse débute son âge d'or sous la Restauration, Anne-Marie Baron, et les romans publiés en feuilleton vont contribuer à cet essor ?
Eh oui, parce que tout le monde a envie de lire le feuilleton qui est au rez-de-chaussée du journal et il est publié quotidiennement, avec épisodes, avec suite au prochain numéro, et ça devient un dispositif pour entretenir l'envie des lecteurs. Hein. Ça devient vraiment un dispositif pour retenir les abonnés. Les lecteurs s'engagent dans le récit, parfois jusqu'à essayer d'en faire partie. Ils écrivent pour donner des idées. Enfin, et par exemple, Eugène Sue a reçu toute une correspondance pour les Mystères de Paris, où les lecteurs plaident pour leur héros favori.
Et ainsi, tout au long du XIXe siècle, les plus grands écrivains se font connaître en publiant leurs œuvres dans les journaux, Émilie Piton-Foucault.
Oui, hein, globalement, c'est ce qui... Et le public lui-même, qui n'était peut-être pas forcément le même qu'auparavant, et même chez les écrivains, c'était quelque chose de positif, parce que Zola lui-même ne faisait pas exactement la même version entre... Enfin, beaucoup de changements entre la version dans la presse, en feuilleton, et ce qui va être publié en livre par la suite. Et même... Il aimait écrire en collant justement les images du feuilleton, enfin les textes, le papier du feuilleton, où il était en train de corriger pour faire quelque chose de plus qu'il aimerait en fait, en tant qu'écrivain.
Mais c'est la contrefaçon belge. qui va prendre les feuilletons et qui va créer des livres sans droit d'auteur, sans jamais payer de droit d'auteur. Mmh. Et c'est contre ça que Balzac va s'élever toute sa vie et créer la Société des gens de lettres pour défendre le droit des auteurs.
Alors justement, parlons un petit peu de la vie de Balzac, puisque tout comme Lucien de Rubempré, il a quitté le foyer familial pour tenter sa chance à Paris. Il part en 1824, et il va travailler au Figaro, qui est alors un quotidien satirique, libéral, qui traite surtout de littérature, Anne-Marie Baron.
Oui. Et c'est, d'ailleurs, c'est dans le Figaro que Proust publiera ses pastiches de Balzac, hein, plus tard. Mais c'est, le roman Illusion perdue est extraordinairement autobiographique, hein, puisque quand on voit dans le film, par exemple, Lucien quitter Angoulême avec Madame de Bargeton, c'est vraiment l'épisode où Balzac quitte Villeparisis dans la voiture de Madame de Berny. On a exactement
Madame de Berny, qui est sa maîtresse.
Qui est sa première maîtresse, qui est plus âgée que lui, enfin, etc. Et...
Mais il qualifie ses premières œuvres de cochonnerie littéraire.
Oui, c'est ça. Il était très exigeant, très difficile. Parce que on dit toujours que Balzac écrit comme ça, à la va comme je te pousse et tout, mais c'est pas vrai du tout. C'est quelqu'un qui n'a accepté de signer son premier roman que au moment des Chouans. Mais entre-temps, il en avait écrit une bonne douzaine qui n'a jamais signé que de pseudonyme.
Et alors il cherche à gagner de l'argent en parallèle, en se lançant dans l'édition avec un ami, Anne-Marie Baron, mais c'est très difficile et il va s'endetter lourdement par ce biais.
Ah, ça va être terrible, la rue Visconti, l'édition, l'imprimerie, bon c'est une très belle aventure, mais malheureusement il n'est pas capable de gérer tout ça, bien qu'ils disent tout le temps, et là... On ne sait pas d'ailleurs s'il est vraiment lucide sur lui-même. Il a dit « Je suis plus grand financier qu'écrivain ». Ce qui était quand même...
Assez faux. expliquer cette faillite
non,
justement,
mais pas vraiment
son imprimerie
faux.
Va faire faillite tout
oui,
de même.
Oui, l'imprimerie va faire faillite parce que... Et pourtant, il n'y a que de bonnes idées dans cette imprimerie. Il y a les œuvres complètes, il y a l'idée des œuvres complètes en un volume, ça c'est une idée de génie et qui va être reprise des tas de fois. Il y a plein d'idées formidables, sauf que
Balzac n'est pas un homme d'affaires.
Il n'est pas un homme d'affaires, mais je veux dire c'est un homme d'affaires à long terme. Par exemple, plus tard quand il va acheter les actions des chemins de fer du Nord, bon, évidemment, lui de son vivant ne verra pas les bénéfices, mais c'est son épouse, sa veuve, qui va toucher les dividendes. C'est quand même incroyable, ça. C'était quand même une bonne affaire.
Mais ce sont tout de même ces dettes, Anne-Marie Baron, qui vont pousser Balzac à écrire pour effectivement éponger ces dettes importantes, dettes liées à l'imprimerie qui a fait faillite, mais aussi à la folie des grandeurs de Balzac, qui est propriétaire de 3 maisons. Expliquez-nous un petit peu comment ces dettes se constituent.
Alors, d'une part, il emprunte de l'argent à ses parents. Sa mère est sa plus grande créditrice. Et lui, il ne sait pas compter. Donc, quand il entre dans un appartement, par exemple, rue Visconti ou rue Cassini, il faut immédiatement que l'appartement soit décoré comme un boudoir de marquise. Il lui faut des tapisseries magnifiques, un bureau superbe. Enfin, donc, il a son ami Gauthier, qui est tout le temps derrière lui, en train de faire le décorateur. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et puis, il y a la période où il devient dandy. Alors là, il faut qu'il s'habille. Et là, on voit bien, dans Illusion perdue, ce que coûte une paire de gants, ce que coûte une paire de bottes, ce que coûte une canne. Je veux dire, tout ça, c'est évidemment, ça crée des dettes. Hein. C'est formidable.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le type de rémunération pèse sur les pratiques d'écriture, puisque tout comme Balzac, Émilie Piton-Foucault, les romanciers du 19e siècle vont avoir tendance à tirer à la ligne, puisqu'ils sont payés à la ligne.
Oui, alors c'est comme ça que ça avait commencé hein, pour Zola, mais justement quand il s'est occupé des Rougon-Macquart, il avait justement, avec la Croix qui s'est occupée d'éditer, il avait exigé justement de recevoir de l'argent chaque mois, 500 francs à l'époque, ce qui était quand même assez particulier parce que justement il voulait arrêter effectivement la pauvreté qui avait été quand même longue le concernant, il préférait avoir quelque chose de régulier et d'arrêter justement ce qui lui était arrivé pendant la presse.
Oui, parce que ce type de rémunération a un impact sur la littérature. C'est ce que dit en tout cas Sainte-Beuve dans un article publié dans la Revue des Deux Mondes en 1839, intitulé « De la littérature industrielle ». Il pointe du doigt cette marchandisation de la littérature. Chaque époque a sa folie et son ridicule. En littérature, nous avons déjà assisté à bien des manies. Le démon de l'élégie, du désespoir a eu son temps. L'art pur a eu son culte, sa mysticité. Mais voici que le masque change. L'industrie pénètre dans le rêve et le fait à son image, tout en se faisant fantastique comme lui. Le démon de la propriété littéraire monte les têtes et paraît constituer chez quelques-uns une vraie maladie pindarique, une danse de Saint-Guy curieuse à décrire. Chacun s'exagérant son importance, se met à évaluer son propre génie en somme ronde. Le jet de chaque orgueil retombe en pluie d'or. Cela va aisément à des millions. L'on ne rougit pas de les étaler et de les mendier. Avec plus d'un illustre, le discours ne sort plus de là. C'est un cri de misère en style de haute banque et avec accompagnement d'espèces sonnantes. Anne-Marie Baron, pour Sainte-Beuve, la littérature ne peut pas être une marchandise comme une autre et il regrette le désintéressement qu'il attribue aux écrivains du XVIIe et du XVIIIe siècle.
Oui, et pourtant la réalité est là. On voit bien dans Illusion perdue que Lucien de Rubempré découvre que tout se vend, y compris les idées, y compris l'écriture. Tout se monnaie, tout se vend, c'est la découverte du monde de l'avidité et donc immédiatement de la frustration. Donc c'est inhérent à la société où l'argent est roi. C'est cette société où on honore la pièce de 100 sous et le veau d'or.
Et le roman connaît un succès, alors grâce à l'impression en feuilleton dans les journaux, mais aussi grâce au cabinet de lecture, voilà, qui connaissent un essor à ce moment-là. Comment ça fonctionne, Anne-Marie Baron? Il trouvent leur essor, ces cabinets de lecture, sous la Restauration, puis sous la Monarchie de Juillet en particulier.
Oui, parce qu'on n'achetait pas tellement les livres, finalement.
Peut-être, c'était cher encore.
C'était encore cher, les tirages n'étaient pas aussi énormes qu'aujourd'hui. Et donc, on allait louer un livre au cabinet de lecture. Et du coup, tout le monde pouvait lire ce livre, aussi bien les femmes de chambre, d'où les romans pour femmes de chambre. Et donc, c'est ça qui assurait la diffusion d'un livre, d'un texte.
Et que cela continue dans la seconde moitié du 19e siècle, Émilie Pitot-Foucault.
Oui, mais les ventes augmentent nettement, le prix. Et d'ailleurs, Zola, en deuxième étape des Rougon-Macquart, commençait à avoir 50 centimes, ce qui peut sembler peu, mais sur les 3 francs et demi qu'il pouvait toucher par rapport à l'éditeur. Donc on voit bien que ça s'ouvrait sur le nombre de personnes qui achetaient finalement.
Pour Zola, c'est vraiment la vente de ses livres qui va lui permettre justement cette ascension sociale.
Oui, en tout cas celles qui ont été vraiment, qui ont eu un succès, L'Assommoir évidemment et Nana, qui ont justement permis que ces 50 centimes rapportent évidemment pour lui énormément.
Dans son essai critique, intitulé « Les romanciers naturalistes », Zola dit de Balzac qu'il a dégagé de l'argent tout le pathétique terrible qu'il contient à notre époque. Comment est-ce que les romans de Balzac vont refléter justement les transformations économiques et sociales de la première moitié du 19e siècle, Anne-Marie Baron? C'est d'abord par la peinture d'un Paris qui se transforme?
Oui, la peinture d'un Paris qui est, comme le dit l'ouverture de La fille aux yeux d'or, comme l'enfer de Dante, avec ses cercles voués à l'or et au plaisir. C'est les deux obsessions, finalement, des bourgeois et même de l'aristocratie du XIXe siècle, l'or et le plaisir. Et cette ouverture magnifique répète toutes les 10 lignes cette expression « l'or et le plaisir ».
C'est aussi la spéculation triomphante que Balzac veut montrer dans ses romans, Anne-Marie Baron.
Oui, parce que Balzac va décrire des comportements assez pathologiques. Et l'investissement, Il en a fait une analyse qui est très, très moderne, je trouve, puisque il montre que dans l'investissement, finalement, c'est comme à une table de roulette, hein. C'est comme Raphaël de Valentin dans La peau de chagrin, allant jouer tout son argent et perdant tout. On recherche surtout l'émotion. Et que, comme dans Le joueur de Dostoïevski aussi, pareil, hein, et Balzac est conscient du fait que la perte peut être même plus excitante que le gain. Et donc, qu'il faut que Balzac fait de la course au profit un but pulsionnel et de l'argent l'instrument du pouvoir qui permet le succès de la recherche effrénée du plaisir. Donc, vous voyez, c'est le cercle vicieux. Donc, l'économie, au fond, lui apparaît moins comme une donnée rationnelle que comme une façon humaine de reproduire des comportements millénaires, primitifs, des comportements qu'on a repérés chez les singes.
C'est aussi ce qu'il montre avec César Birotteau dans son roman « Histoire de la grandeur et de la décadence » de César Birotteau, cette quête de l'argent et en même temps les premiers balbutiements de la publicité dans les années 1820, Anne-Marie Baron.
Oui, César Birotteau est un cas d'espèce. C'est un commerçant qui a compris le pouvoir de la publicité. Et donc, quand il veut vendre ses produits de beauté, ses huiles pour les cheveux, ses pâtes pour la peau, enfin, il est très, très novateur, hein, dans ce domaine, il comprend que le seul moyen, c'est de faire de la publicité. Mais c'est uniquement parce qu'il est trop ambitieux et qu'il veut obtenir des marques de réussite sociale, si vous voulez, qu'il va échouer. Ça, c'est le cas d'espèce. Mais à côté du cas d'espèce, nous avons l'analyse plus générale de la spéculation. De la spéculation au sens le plus propre, c'est-à-dire de Nucingen. Nucingen qui, lui, investit dans les terrains, les actions, et alors qui invente la fameuse combinaison qu'on retrouve chez le financier Madoff. Hein, c'est-à-dire que Balzac, c'est d'une actualité, mais brûlante, vraiment.
En quoi est-ce qu'il préfigure l'arnaque à la Madoff, Anne-Marie Baron?
Eh ben, c'est pas compliqué, parce que dans La maison Nucingen, ce roman qui est un roman très curieux parce qu'il est presque abstrait, nous avons une société par action qui est créée et qui promet des dividendes importants. Ces dividendes attirent des capitaux, mais des capitaux niais. C'est-à-dire que ce sont les gogos qui les achètent. Et ces capitaux sont rémunérés, non pas par des actions ou par des terrains ou par de l'industrie, mais par le capital lui-même. Ce qui fait que c'est ce qu'on appelle la chaîne de Ponzi, hein, du nom du fameux Américain qui a été jeté en prison après avoir fait fortune en 6 mois. C'est exactement le principe mis en œuvre par Madoff sur une longue durée. Et il faut noter que Balzac est le premier à employer l'adjectif « pyramidal ».
Ah oui, c'est intéressant. Alors effectivement, la spéculation, elle tient une place essentielle dans l'œuvre de Balzac, mais c'est aussi quelque chose d'important dans les romans d'Émile Zola. Il va beaucoup parler de la finance, Émilie Piton-Foucault.
Oui, alors il y a l'aspect social, évidemment, mais la spéculation elle-même est au centre, hein, notamment à travers un personnage qui s'appelle Aristide Saccard, qui est présent dans le deuxième des 20 romans, mais aussi à la fin. Donc l'un qui s'appelle La Curée et l'autre qui s'appelle L'Argent. Et dans ces deux romans, le même personnage est là pour spéculer de manière différente. Le premier, c'est dans la construction de Paris, en fait, hein, Haussmann, où il avait trouvé à l'avance les endroits où on allait construire des grands immeubles, des avenues, et qu'il va les réutiliser, évidemment, les acheter pour les vendre très cher. Et ce personnage est toujours extrêmement riche, extrêmement pauvre, extrêmement riche, extrêmement pauvre, et c'est ça qui l'intéresse, c'est comme si ce n'était pas une vraie personne. C'est comme s'il n'avait qu'un seul intérêt, c'était justement d'avoir l'excitation, de gagner de l'argent, et même s'il a perdu, finalement, encore avoir l'envie de monter encore plus haut. Et l'argent, qui va être cette fois beaucoup plus moderne, sera sur la question de la bourse et des actions pendant tout le roman.
Alors, il y a la finance, et puis il y a la question des inégalités sociales. Elles ne sont évidemment pas nouvelles, ces inégalités, mais elles deviennent un sujet d'indignation morale et philosophique au XIXe siècle, Anne-Marie Baron. Et la littérature s'en fait l'écho?
Oui, la littérature essaye de moraliser un petit peu les choses, mais tout le monde sait qu'il y a d'une part les gogos et d'autre part le financier, qui est celui qui a la capacité de faire varier la valeur d'un titre s'appuyant sur du réel, mais déconnecté du réel. Donc ça, c'est très très intéressant.
Mais au-delà de ceux qui investissent dans la dans différentes actions industrielles, il y a aussi toutes les conséquences sociales de l'industrialisation. Et même si Balzac ne s'en fait pas directement l'écho, il y a tout de même cet aspect social qui est présent dans son œuvre.
Oui, il y a la ruine des commerçants comme Birotteau. Qui va faire faillite, alors que c'est un très bon commerçant, etc. Et c'est ce que Balzac appelle une faillite honnête, parce que il n'a jamais trompé personne. Et donc on a.
Mais on retrouvera peut-être davantage, pardon, vous coupez, ces conséquences sociales chez Zola, Émilie Piton-Foucault, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle.
Oui, notamment avec Germinal, évidemment, où les deux sont présents, même si ceux qui dirigent les mines ne sont pas très présents, mais justement, c'est une volonté de donner l'impression que c'est comme un monstre, un diable qui s'en occupe. Hein. C'est pour ça que, quelque part, le noir de la mine, où ils tombent à l'intérieur, ceux qui sont les ouvriers, finalement, sont l'image même de ceux qui investissent à ce moment-là et qui sont les propriétaires de ces entreprises. Et quelque part, il a choisi d'appeler Voreux, l'endroit où travaillent les mineurs, qui veut dire il dévore les gens du peuple qui travaillent là-bas.
Ce 19e siècle, c'est le siècle du roman réaliste, et même si Balzac ne peut pas être considéré en tant que tel comme un romancier réaliste, Anne-Marie Baron, il en est au moins le précurseur.
Oui.
Même si je sais que vous ne souhaitez pas qu'on réduise l'œuvre de Balzac à une simple peinture des
Non, mais ça, c'est vrai que ça, c'est la grande idée Balzac réaliste. Mais quand on regarde bien de près, on se rend compte que, après tout, cette spéculation qu'il a tellement aimée, décrite et pratiquée lui-même, parce qu'il spéculait surtout, lui. Il savait bien qu'il voulait cultiver des ananas, qu'il voulait aller fouiller dans les mines d'argent de Sardaigne. Enfin, je veux dire, tout l'intéressait. Il se croyait un très grand financier, comme au sens propre, vraiment. Mais après tout, spéculer, qu'est-ce que c'est ? C'est jouer sur l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que la finance virtuelle ? C'est un commerce abstrait. On est dans l'abstraction des chiffres. Et quand je lis les lettres à Madame Anska, où il lui dit « j'ai acheté ceci qui coûte tant », il y a que des chiffres dans les lettres à Madame Anska. Et on se demande d'ailleurs comment elle devait recevoir ces lettres, des lettres d'amour qui sont remplies de chiffres et du prix des objets qu'il avait achetés pour elle, c'était quand même très étrange. Mais pourtant pour lui, non, parce que pour lui, c'était du rêve. Vous savez bien l'anecdote de la maison dans laquelle il avait, sur les murs blancs, dessiné ici un tableau de Delacroix, ici un tableau de... Donc il était dans le rêve le plus pur.
Et c'est en tout cas le réalisme, au moins celui de Zola, qui a poussé la chanteuse américaine Nika Rosa Danilov à choisir comme nom de scène Zola Jesus.
France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Oh,
la chanteuse Zola Jesus sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, suite de notre réflexion sur l'argent dans la littérature du 19e siècle, de Balzac à Zola. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Marie Baron et d'Émilie Piton-Foucault, une émission réalisée par Somaya Dabesh et mise en ondes par Jean Frédérics. Comment l'argent est-il mis en fiction dans l'œuvre de Balzac ? Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a chez l'auteur de la comédie humaine un rapport ambivalent au banquier, Anne-Marie Baron.
Oui, d'abord il observe la réalité, il n'invente rien. Et des choses qui ont eu encore cours récemment avec la banque Lehman Brothers. Par exemple, le crédit trop largement accordé, le trafic d'informations, la rente comme outil de spéculation financière, le jeu sur les apparences, il faut que les banques soient très belles pour inspirer confiance, et le goût du secret et d'un langage incompréhensible. Donc tout ça, c'est la réalité.
Et il est très moderne en cela, lorsqu'il dit qu'il faut que l'argent circule, que les avares sont ceux qui thésaurisent.
Les avares sont ceux qui ont l'or mort, qui ne sert à rien. Ils ne font que thésauriser et le mettre dans des caisses, dans des coffres. Mais Balzac joue sur le contexte et sur la mise en scène. Il en tire une valeur dramatique et une morale qui est en quelque sorte valable jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, l'avarice d'abord est vraiment le pire des défauts chez lui. Et on a des avares qui sont pathologiques, vraiment pathologiques.
Lesquels par exemple ?
Alors, Grandet bien sûr, le père Grandet. Parce que lui, il passe son temps, il a fait sa fortune en spéculant sur les biens du clergé, qu'il a racheté à la Révolution, mais son argent, il l'investit dans une ou deux petites choses, mais il est surtout dans son coffre. Et là, il y a vraiment quelque chose qui renvoie à l'Harpagon de Molière, hein, c'est-à-dire c'est vraiment mon or, mon or, mon or, et c'est marier ma fille sans dot, sans dot, sans dot. Enfin,
Et c'est intéressant de voir que le père Grandet est aux antipodes du père Goriot dans ce rapport à l'argent. Expliquez-nous ça, Anne-Marie Baron.
Ben oui, parce que l'un n'est que thésaurisation et égoïsme, et l'autre est la générosité même. C'est-à-dire qu'il va se dépouiller complètement petit à petit en faveur de ses deux filles qui, évidemment, vont devenir de plus en plus avides, de plus en plus froides. Et il croit, et ça c'est très balzacien, Balzac a toujours cru qu'on pouvait acheter l'amour. Et vous savez que lui, il n'a pas été très gâté de ce côté-là, que sa mère n'était pas vraiment d'une affection formidable. Et donc, cette idée du père Goriot qui essaye d'acheter l'amour de ses filles en leur donnant, en tordant ses couverts en argent, ses derniers couverts en argent pour essayer de les aider à payer leurs dettes, c'est pathétique.
Vraiment. Amour qu'il n'obtiendra jamais vraiment, puisqu'il n'obtient que l'indifférence de ses filles.
Il meurt seul et son cortège funèbre est accompagné par les deux voitures armoriées mais vides des deux filles, tandis que Rastignac, lui, va crier du haut du cimetière du Père Lachaise « À nous deux maintenant ». En s'adressant à Paris.
Alors il y a le père Grandet, le père Goriot, puis il y a un autre personnage important chez Balzac dans cette réflexion autour de l'argent, c'est l'usurier Gobseck.
Oui.
Ses actions, depuis l'heure de son lever jusqu'à ses accès de tout le soir, étaient soumises à la régularité d'une pendule. C'était en quelque sorte un homme modèle que le sommeil remontait. Si vous touchez un cloporte cheminant sur un papier, il s'arrête et fait le mort. De même, cet homme s'interrompait au milieu de son discours et se taisait au passage d'une voiture afin de ne pas forcer sa voix. À l'imitation de Fontenelle, il économisait le mouvement vital et concentrait tous les sentiments humains dans le moi. Aussi, sa vie s'écoulait-elle sans faire plus de bruit que le sable d'une horloge antique. Quelquefois, ses victimes criaient beaucoup, s'emportaient, puis après, il se faisait un grand silence, comme dans une cuisine où l'on égorge un canard. Vers le soir, l'homme billet se changeait en un homme ordinaire et ses métaux se métamorphosaient en cœur humain.
«
Voilà, c'était un extrait de Gobseck, roman paru en 1830. Cet usurier ainsi imaginé par Balzac est un être quasi surnaturel qui incarne finalement la figure du romancier lui-même, Anne-Marie Baron.
Oui, parce que bien, à force de prêter de l'argent, il a appris à sonder les cœurs. Quand un créancier vient le voir, il comprend tout de suite quelle est la passion qui l'anime et pourquoi son besoin d'argent est aussi vital. Et donc, il a ces mots absolument extraordinaires. La vie n'est-elle pas une machine à laquelle l'argent imprime le mouvement ? Vous n'arriverez jamais à séparer l'âme des sens, l'esprit de la matière, l'or et le spiritualisme de vos sociétés actuelles. Et Gobseck, lui, il a renoncé à tout. C'est-à-dire qu'il vit tout seul, enfermé dans cette maison où il entasse non seulement l'argent, mais toutes les denrées, même les plus périssables que lui donnent ses créanciers, pour profiter du pouvoir et du plaisir, de la jouissance suprême, de sonder les cœurs exactement comme un dieu. Et ça, c'est l'image du romancier qui a le don de double vue. Ce fameux don de double vue dont Balzac s'est vanté toute sa vie, eh bien, il est chez l'usurier Gobseck. Et chez d'autres personnages aussi qui sont des avares.
Et alors sur ce lien qui est assez passionnant justement entre ces liens entre l'or et la spiritualité, il faut peut-être évoquer ici Anne-Marie Baron deux autres romans importants de Balzac, Melmoth réconcilié d'un côté et La peau de chagrin de l'autre, deux romans dans lesquels ce que montre Balzac, c'est que on ne peut pas servir à la fois Dieu et l'or.
Oui, parce que dans Melmoth réconcilié, c'est nettement le diable qui vient pour tenter ce pauvre caissier qui s'appelle Castagnier et qui va lui inspirer l'idée de voler dans la caisse. Et après, il va lui donner le don de double vue, c'est-à-dire que le don de double vue, il est à la fois divin et diabolique. Ça, c'est l'ambivalence de Balzac. Et dans La peau de chagrin, cette fameuse peau de chagrin que Raphaël de Valentin achète chez l'antiquaire, elle va lui permettre de réaliser absolument tous ses désirs.
Et notamment de devenir immensément riche.
Oui, mais une fois que tous les désirs sont satisfaits, vous n'avez plus rien à désirer, c'est ça qui est terrible. Et en plus, la métaphore est magnifique, le symbole est superbe. Chaque désir abrège votre vie, et chaque satisfaction de désir abrège votre vie. Et c'est pour ça que Gobseck, lui, il économise la sienne en ne désirant rien, en restant enfermé chez lui à observer les autres.
La richesse au prix de sa vie.
S'économiser soi-même, non pas seulement économiser l'argent, mais s'économiser soi-même.
Alors chez Zola, l'économie tient une place tout à fait différente, bien sûr, Émilie Piton-Foucault, on va en parler. Mais d'abord, expliquez-nous peut-être, comme on l'a fait un peu plus tôt pour Balzac, quel était le rapport de Zola à l'argent. Sa famille vivait dans un certain confort matériel, mais elle subit un déclassement avec la mort du père.
Oui, il avait 7 ans hein, lorsque son père est décédé, et son père était ingénieur, et il y avait justement une société d'action qui était associée à ce qu'il devait faire, un canal à côté d'Aix-en-Provence, et sa mère a été face justement à tous ceux qui demandaient d'avoir de l'argent ou des procès vis-à-vis de cet argent-là, ce qui a créé des problèmes financiers énormes. Et à un moment, lorsqu'il était à la fin du lycée, ils sont retournés du sud vers Paris, où là, lui-même, au fur et à mesure, il vivait dans des mansardes où il devait aussi financer pour sa mère, ce qui a été quand même très compliqué. Vraiment, lui-même avait des liens avec les gens vraiment de la misère, qui c'était son monde, en fait, à cette époque-là.
Un monde qu'il va décrire dans La Curée, paru en 1871. Écoutez ce que Zola en dit de ce roman dans une lettre lue par l'écrivain Maurice Druon.
Pendant 3 années... J'avais rassemblé des documents, et ce qui dominait, ce que je trouvais sans cesse devant moi, c'était des faits orduriers, les aventures incroyables de honte et de folie, l'argent volé et les femmes vendues. Cette note de l'or et de la chair, cette note de ruissellement des millions et du bruit grandissant des orgies, sonnait si haut et si continuellement que je me décidai à la donner. J'écrivis La Curée, pouvais-je me taire ? La Curée, c'est la plante malsaine, poussé sur le fumier impérial, c'est l'inceste grandi dans le terreau des millions. J'ai essayé avec ces monstruosités sociales de donner une idée de l'effroyable bourbier dans lequel la France se noyait.
Voilà une lecture par Maurice Druon dans une archive du 3 mars 1952 de l'émission Le Roman Expérimental sur France Culture. Les difficultés du peuple que Zola décrit dans La Curée, il les a donc côtoyées de près dans sa jeunesse, Émilie Piton-Foucault.
Oui, hein, il les a connus jusqu'à peut-être 23 ans avant qu'il fasse partie véritablement du journalisme. Et quand je pense à La Curée, évidemment, le titre était vraiment celui d'imaginer les chiens pendant la chasse, hein, qui vont récupérer tout ce qui est possible pour avoir de l'argent. Et le peuple, lui, d'un autre côté, qui n'était pas du tout présent parmi ces gens.
Et donc Zola se sent la responsabilité de réussir par la littérature. C'est pour ça qu'il choisit le roman plutôt que la poésie, parce que c'est plus rémunérateur.
Au départ, hein, lorsqu'il était très jeune, c'était la poésie, puis le théâtre. C'était ces choses-là qui l'ont intéressé, mais en lien justement avec les questions du feuilleton, où le roman est devenu... c'est une chose centrale pour lui par la suite.
Et cela notamment parce qu'il doit rembourser les dettes contractées par son père. C'est ce qu'il va faire pendant 2 décennies. Je crois, Émilie Piton.
Oui, il y a toujours eu, et même des gens où c'était sans doute des faux, hein, qui n'avaient pas véritablement reçu ces actions-là. Enfin, c'est ce qui a joué aussi sur sa vision de l'argent et des gens qui investissaient justement dans les actions à cette époque-là. Pour lui, il y avait beaucoup des prête-noms, des gens qui mentaient finalement quand ils demandaient par des procès. De récupérer de l'argent.
Et alors il met en scène cette ascension sociale par les lettres dans ses romans en un siècle où tout devient plus mobile qu'avant, Émilie Piton-Foucault.
Oui, alors en revanche, lui-même, son rapport avec l'argent, plus il devient riche, finalement... Il y a un article qui est intéressant, une interview où il a parlé, juste avant d'écrire le roman L'Argent, de son rapport lui-même avec l'argent, où il ne faisait aucune gestion, que c'était sa femme qui s'en occupait et que lui aimait acheter des bibelots comme un autre et qui aimait en avoir plein chez lui, notamment des vêtements. Et ce qui était étonnant pour parler du fait qu'il adorait les robes des femmes de l'époque de Louis XIV pour montrer qu'elles étaient, c'était des très belles robes, mais en dessous c'était de la crasse qui était présente parce que les gens n'allaient pas se laver tant que ça à cette époque-là. Il y a presque ici une mise en abîme quelque part de la richesse. On montre ça et en dessous il y a de la crasse. C'est d'ailleurs un mot qu'il utilise dans la même interview avec la question de l'argent, que les gens, il y a de la crasse qui est présente.
Est-ce que c'est pour montrer qu'il y a certes un progrès économique sous Napoléon III, mais ça n'a pas entraîné l'amélioration du sort des masses malgré les promesses de Napoléon III?
Oui, parce que pour lui, et c'est un problème pour lui, parce qu'il voit aussi une évolution plus tard lorsqu'il écrit dans les années 90. Il y a des choses comme les affaires de Panama, par exemple, du Panama, et aussi l'Union Générale, qui, des problèmes de banquiers qui ont eu lieu. Il aurait aimé les mettre dans l'époque justement dont il est en train de parler dans les Rougon-Macquart, mais qui ont eu lieu plus tôt. Mais c'est vraiment des choses qui le fascinent énormément, et surtout l'idée de cette dissociation entre l'économie et le peuple et les travailleurs qui sont présents.
Il y a alors une plus forte mobilité sociale, parce que comme l'écrit Tocqueville, chacun se sent aiguillonné sans cesse par la crainte de descendre et l'ardeur de monter. Et comme l'argent, en même temps qu'il est devenu la principale marque qui classe et distingue entre eux les hommes, il y a acquis une mobilité singulière. Il n'y a presque personne qui ne soit obligé d'y faire un effort désespéré et continu pour le conserver ou pour l'acquérir. C'est cela que décrit Zola, cette lutte pour la vie, puisqu'effectivement la société est devenue un espace de lutte pour la survie où les faibles sont éliminés au profit des plus forts, Émilie Piton-Foucault.
Mais vraiment, deux mondes, en tout cas sur la question des actions et de la bourse, c'est vraiment des gens qui sont dans leur... C'est au-delà de leur propre intérêt financier, c'est vraiment l'idée que le jeu de l'argent, c'est vraiment ça, les déconnecte complètement du reste du peuple, du reste du pays. C'est vraiment comme, chez lui, il y a vraiment la spéculation, comme s'ils n'étaient pas des êtres humains, mais juste des gens qui sont comme des actions, n'étant que des lettres, des gens qui ne sont que dans le jeu et pas du tout dans la vraie vie quotidienne, finalement.
Il y a Germinal, que vous avez cité un peu plus tôt, et cette description de la violence sociale. Quels autres exemples on a dans la littérature de Zola, de cet espace violent qu'est la société et de cette bataille entre les forts et les faibles telle qu'elle est dépeinte par l'auteur de La Curée, Émilie Piton-Foucault?
Alors si on reste sur la question du peuple lui-même, peut-être moins évident au départ dans le lien, mais Le Ventre de Paris, hein, qui se passe dans les Halles, montre déjà au niveau juste des petits bourgeois, mais la façon dont l'intérêt, eux, en tant que vendeurs, ne peuvent pas accepter quelqu'un, un personnage central, qui, lui, veut protester. Il veut faire des manifestations et il vient de Cayenne, si bien que il va être dénoncé de manière anonyme par tous les autres, de peur que ça joue justement sur leur économie à l'intérieur des Halles. Donc il y a ce type d'aspect qui est présent, mais par contre il y a quand même chez Zola une fascination du fonctionnement même de la question de l'argent. Et lorsqu'il va écrire ce roman-là, lui-même dans la presse dit que le mot « argent » est un mot qui lui pose problème. Il n'arrive pas à comprendre ce que c'est l'argent.
Et pourquoi est-ce que ça lui pose problème? C'est vraiment la définition du terme?
Oui, alors lui-même, il dit qu'il va devoir le synthétiser, l'analyser pour comprendre ce que c'est. Et chez lui, le héros qui est dans le monde de l'argent est quelqu'un qui est presque abstrait, qui n'est pas dans l'existence concrète, dans la vraie vie. Mmh. Et il n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent aller vers ce type d'idée.
Zola, qui se passionne pour les inventions de son époque, voilà ce qu'il écrit dans ses Lettres de Paris au sujet de l'exposition universelle de 1878. De l'exposition française, je recommanderais seulement la galerie des machines sans nombre. Et parce qu'il est saisissant de voir à la fois tout un monde de leviers, de roues de toutes formes et de toute grandeur. Depuis les métiers à imprimer, à tisser et à filer, jusqu'aux machines utilisées dans les mines et dans la métallurgie, depuis les machines à coudre jusqu'aux machines agricoles, c'est toute une chaîne de bras d'acier et de bronze, c'est toute une forêt d'arbres vivants. Un grondement assourdissant, ininterrompu remplit la galerie. Les roues tournent, la terre tremble, on se sent dans le tourbillon du travail humain. Je ne connais pas de promenade plus émouvante que de parcourir cette galerie. On y est peu à peu saisi d'un enthousiasme qui vous tire les larmes des yeux. Alors cet extrait, effectivement, de ces Lettres de Paris nous donne une idée de la passion pour les machines de Zola, une passion qu'il tient de son père, Émilie Piton-Foucault.
Oui, la question de l'ingénieur, de celui qui construit, c'est exactement la vision qu'il a de lui-même en tant qu'écrivain. Celui qui est là pour justement construire quelque chose, d'où le système des Rougon-Macquart, le cycle où il veut réussir à construire l'image même de l'ensemble de la France à une époque qui est clos. Le clos chez lui montre que lui-même a fait quelque part, pas sa machine, mais en tout cas une construction qui a un sens véritable.
Donc il compare véritablement la lutte de l'ingénieur et la lutte de l'écrivain.
Oui. Ou en tout cas, l'architecture est extrêmement présente chez lui. Et là encore, il y a toujours un lien, et même les gens qui sont proches, ceux qui ont fait sa biographie à l'époque, hein, Alexis par exemple, a toujours associé son fonctionnement à celui d'un architecte, quelqu'un qui veut absolument construire un monde, et ce monde, c'est celui du roman.
Et justement, au XIXe siècle, c'est une époque où les ingénieurs prennent une place grandissante, au point d'entrer en concurrence avec les architectes, Émilie Piton-Foucault.
Alors, la question de l'ingénieur est intéressante dans l'argent sur l'opposition entre celui qui fait des actions et celui qui est ingénieur, ce qui rappelle évidemment la vie de son père précédemment. Celui qui est ingénieur justement dans ce roman-là veut absolument construire des mines dans le Moyen-Orient. Et évidemment, celui qui veut faire les actions, qui veut tout gérer, Saccard, lui imagine l'or au loin, quelque chose de mythologique, quelque chose de merveilleux. L'autre est concret. Et évidemment, les deux ne peuvent pas fonctionner. Évidemment, il va y avoir une ruine totale sur ces actions.
Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une ambivalence, finalement, entre la passion de Zola pour le progrès technique et sa description des dégâts sociaux provoqués par le progrès, Émilie Piton-Foucault.
Oui, il y a une contradiction parce qu'il ne peut s'empêcher d'y voir un rapport avec la création elle-même, donc l'écriture elle-même. Il y a quelque chose d'imagination qui est présente chez ceux qui sont à la bourse, chez ceux qui financent. Et c'est cet aspect-là qui peut sembler intéressant pour lui et aussi le côté abstrait, c'est-à-dire que tout n'est que de l'écrit lorsqu'on a une action. C'est du papier avec de l'écriture dessus et il y a une certaine fascination de voir que ça a une valeur. Et la question de la valeur, de l'opposer à la valeur morale ou sociale, lui pose question. Mais il y a une fascination malgré tout.
Cette abstraction de la finance, ça nous renvoie à ce que l'on disait tout à l'heure sur Balzac, Anne-Marie Baron. Qu'est-ce que le rapport de Zola à l'argent vous inspire, vous qui êtes une grande spécialiste de Balzac?
Je crois que Balzac aussi a eu ce rapport un peu lointain, disons, avec l'argent. C'est-à-dire que l'argent est un jeu, quoi. C'est un jeu sur les chiffres. Et pour Balzac, les chiffres et les lettres sont des signes quasiment métaphysiques. Vous savez qu'il est très inspiré par la Kabbale. Et donc, il y a une espèce de spéculation sur... D'ailleurs, il faut bien distinguer les chiffres et les nombres. Hein. C'est-à-dire que les chiffres, c'est ce qui sert à faire l'inventaire des fortunes. C'est ce qui sert à évaluer. Tandis que les nombres, c'est ce qui sert à déchiffrer le monde, à déchiffrer aussi la métaphysique. Donc... là, on a vraiment le Balzac qui est doublement à la fois matérialiste et spiritualiste et qui refuse de choisir entre les deux. Et les chiffres et les nombres en sont un exemple qui me semble très parlant.
Et est-ce que vous diriez que le rapport de Balzac à l'argent est emblématique du rapport à l'argent entretenu par les écrivains du 19e siècle ? Ou est-ce que Balzac se situe un peu à part, finalement ?
Mais moi, il me semble toujours que Balzac est un cas à part. À cause de son histoire personnelle, c'est-à-dire à cause du fait qu'il a été privé d'argent par ses parents, que quand il a fait ses études, il mourait de faim, de froid, etc., dans sa fameuse mansarde de la rue de Lesdiguières, et qu'il a eu toute sa vie des problèmes terribles. Et puis, sur le plan psychanalytique, le fait que ce soit sa mère qui l'ait...
privé d'argent.
Et puis surtout qui ait été sa principale créancière. Mm. Je veux dire, ça, il y a quand même quelque chose de tout à fait impressionnant, quoi. Mm. Et c'est pour ça qu'il dit d'elle une chose qui est terrible. Il dit « Ma mère est à la fois un monstre et une monstruosité ».
Ce sont des mots très forts, Émilie Piton-Foucault. Est-ce que vous diriez la même chose de Zola par rapport au romancier de la seconde moitié du 19e siècle ?
En tout cas, chez lui, il y a vraiment une différence entre économie et finance. Il y a vraiment l'idée de économie pour faire quelque chose et la finance elle-même. Là, quand vous étiez en train de parler, ça me refait penser à sa description de la bourse où il nous en fait une musique. Justement, les chiffres qui n'arrêtent pas, ça n'a aucun sens. Un tel dit tel chiffre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ils n'ont même pas de vrai nom puisqu'ils portent le nom de celui qui finance. Donc, ils s'appellent tous Mazot parce qu'ils relèvent de Monsieur Mazot. Et finalement... La manière qu'il a de l'écrire, il nous parle des animaux qui font plein de bruit, et lui-même commence à nous donner un rythme comme si c'était de la musique, finalement. Mmh. Donc là, il y a une fascination au niveau de la finance qu'il faut vraiment dissocier de la question de l'économie, comme on peut la voir dans Germinal, finalement. Mmh.
Merci beaucoup à toutes les deux, Anne-Marie Baron et Émilie Piton-Foucault, de nous avoir accompagnées tout au long de cette émission et de nous avoir expliqué quelle place avait l'argent dans cette littérature du 19e siècle, en particulier dans les romans de Balzac et de Zola. Anne-Marie Baron, votre prochain ouvrage paraîtra en 2022, Balzac, spiritualiste d'aujourd'hui au-delà du bien et du mal, c'est bien cela ?
C'est bien ça.
Voilà, et cela paraîtra aux presses Honoré et Champion. Un grand merci à toutes les deux.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Et c'est l'heure pour nous de retrouver votre chronique quotidienne, le pourquoi du comment. Cette semaine, c'est avec Mathilde Dupré.
Pourquoi protège-t-on encore les investissements fossiles ? La COP26 s'est conclue après un vrai psychodrame sur la déclaration finale et la phrase sur les énergies fossiles. Et il reste encore un véritable éléphant dans la pièce des négociations climatiques qu'aucun pays n'a encore osé nommer, la question de la protection des investissements fossiles. En août 2021, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a encore tiré la sonnette d'alarme. Le monde n'est pas sur la bonne voie pour respecter l'accord de Paris. C'est dans ce contexte que la communauté internationale avait rendez-vous à Glasgow, pour la 26e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je ne chercherai pas ici à en tirer un bilan exhaustif. Disons seulement que cette COP26 devait acter l'accélération collective des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et que, faute d'y parvenir, les États sont invités à faire des annonces supplémentaires dès 2022. Un événement sans précédent est toutefois à signaler. La déclaration finale mentionne pour la première fois les énergies fossiles. C'est d'ailleurs notamment sur cette phrase que les pays se sont divisés jusqu'à la dernière minute. Il y est donc finalement question de la diminution progressive de l'électricité produite à partir du charbon sale et des subventions inefficaces aux énergies fossiles. Cela vous surprendra peut-être, et ce serait bien normal. Comment a-t-on pu se réunir 26 années consécutives pour des négociations internationales sur le climat et éviter aussi soigneusement le sujet des énergies fossiles ? C'est bien là que le bât blesse. La diplomatie climatique internationale suppose d'atteindre des solutions consensuelles qui sont par nature bien en deçà des besoins identifiés par les scientifiques. C'est pourquoi la nécessité de stopper immédiatement tout investissement dans les nouveaux projets pétroliers, gaziers et de charbon n'est toujours pas actée. Rappelons pourtant que rien que dans l'Union européenne, il y a plus de 200 centrales à charbon toujours en activité. À cette inertie s'ajoutent des obstacles juridiques majeurs pour mettre fin à l'exploitation des énergies fossiles. Car les investissements dans ces secteurs sont protégés au titre de nombreux accords de protection des investissements. Ainsi, même les pays qui décident individuellement de sortir du charbon, comme les Pays-Bas récemment, se retrouvent attaqués par les industries fossiles. En l'occurrence, les géants allemands et finlandais RWE et Uniper, qui réclameraient des sommes allant jusqu'à 2,4 milliards d'euros de compensation, soit près de 3 fois les sommes auxquelles ils auraient pu prétendre selon les modalités prévues par la loi néerlandaise. Or, ces litiges se règlent devant des tribunaux privés d'arbitrage et selon des règles très favorables aux investisseurs. Le traité le plus souvent invoqué est le traité sur la charte de l'énergie. Il s'agit d'un accord d'investissement plurilatéral ratifié par 53 pays et l'Union européenne qui a vu le jour dans les années 90 pour protéger les investissements étrangers dans le secteur de l'énergie. En pratique, il permet aux investisseurs étrangers d'attaquer les États pour presque toutes les décisions dont ils considèrent qu'elles nuisent à leurs intérêts. Il est déjà devenu une arme redoutable aux mains des industries fossiles pour entraver ou renchérir le coût de la transition énergétique. Et les litiges risquent de se multiplier à l'avenir à mesure que les États prendront des mesures climatiques plus ambitieuses. La valeur des actifs fossiles protégés par le traité sur la charte de l'énergie depuis son entrée en vigueur est estimée à 870 milliards d'euros. Et cela représente encore aujourd'hui 61 centrales électriques à charbon. Bien consciente du caractère obsolète de ce traité, l'Union européenne a encouragé l'ouverture d'une négociation pour le moderniser. Mais le niveau d'ambition des propositions portées n'est pas en phase avec la trajectoire de l'accord de Paris. Et beaucoup d'États sont de toute façon réfractaires à la fin même progressive de la protection des investissements fossiles. C'est pourquoi l'Union européenne et les États membres devraient sortir au plus vite de ce traité et désamorcer entre eux la clause qui prévoit de faire perdurer pendant 20 ans, après une éventuelle sortie de l'accord, la protection des investissements déjà réalisés.
Okay.
The mothership has arrived. Yeah. Yo, 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 George, Dr. Funkenstein, Clinton, and see my funk in the house, ready to turn this mother out. Hit it.
Toda envuelta en la película.
Pues all right.
En otro senso, salte ya de la novela y pon el cuerpo bajo presión. Deja que el boom del beat se huele y te revuelque y te ponga sin vergüenza. Si tú no te conviene, tanta finura te da dolores de cabeza.
En que la calera es así, desde temprano cumbo aquí, todos los días.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. On se quitte avec Funk Aspirine, le dernier titre de Sima Funk et George Clinton. Demain, qu'est-ce que la recherche du temps perdu nous apprend sur l'économie? Une émission qui s'inscrit dans le podcast exceptionnel que France Culture consacre à Marcel Proust à l'occasion du centenaire de sa mort. Des dizaines d'émissions de la chaîne vont venir nourrir ce podcast tout au long de l'année, jusqu'au 18 novembre 2022, date de la disparition de Proust. Et une émission qui sera retrouvée sur l'appli Radio France comme l'intégralité des épisodes d'Entendez-vous l'écho, des émissions que vous pouvez aussi retrouver sur Twitter. Et puis France Culture et RT s'associent pour réfléchir aux idées de demain et aux préoccupations des 18-30 ans. Le festival Et Maintenant se tiendra lundi prochain, le 29 novembre, à la Maison de la Radio. Et il est ouvert à tous, on vous attend très nombreux.